Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. En Amérique latine, deux pays se disputent un triste palmarès. Celui du pays le plus touché par la pandémie, derrière les États-Unis en nombre absolu de morts, Mexique ou Brésil, c'est selon, d'après la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPAL, la réaction mexicaine face à la pandémie a été la plus tardive des 33 pays de la région et la vaccination est prend du retard. Plus de 322 000 décès pour le Mexique, 314 000 pour le Brésil et plus de 550 000 pour les États-Unis. Avec seulement 8% de la population mondiale, l'Amérique latine et les Caraïbes comptent environ 25% de l'ensemble des décès dus au virus. L'Amérique latine et centrale devrait connaître une très forte récession de l'ordre de 8% en 2020 et une relance limitée à moins de 4% en 2021. La dépendance de la région aux exportations de produits primaires et d'énergie la fragilise à un moment où les prix et les volumes d'échange de ces produits s'effondrent, à quoi s'ajoute une chute de l'investissement et de la consommation intérieure en raison de l'intensité de la crise sanitaire. L'Amérique latine va-t-elle pouvoir résister aux effets de la pandémie alors qu'elle souffre d'une stagnation économique antérieure à la Covid-19 et précipitée par celle-ci? Les conséquences politiques inquiètent elles aussi. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Pierre Salama, latino-américaniste, professeur émérite des universités et chercheur au CNRS, auteur de Contagion virale, contagion économique, risque politique en Amérique latine, paru aux éditions du Croquant. Bonjour.
Bonjour.
C'est presque dans tous les pays du continent le même scénario. Manque de lits dans les unités de soins intensifs, manque d'oxygène et une contamination en hausse à cause des variants, et cela malgré une campagne de vaccination, parfois comme dans le cas du Chili, très efficace. Les systèmes de santé sont au bord de l'effondrement, notamment au Brésil, où la pandémie semble être hors de contrôle à cause probablement du variant en provenance d'Amazonie et qui inquiète fortement les pays voisins. Que pensez-vous des réponses qui sont apportées à la pandémie jusqu'à présent, Pierre Salama?
Oui, il faut faire très attention quand on parle des pays. Le Brésil, par exemple, est un État fédéral. Et vous avez des contradictions entre la politique du président de la République, Bolsonaro, et celle de différents gouverneurs ou maires de grandes cités. Je veux dire par là que l'un, le premier Bolsonaro, est contre, y compris la vaccination, notamment du vaccin chinois, voire même brésilien. Il a dénié pendant très longtemps la pandémie, on pourra revenir là-dessus, il porte une lourde responsabilité et s'est opposé donc par conséquent à nombre de gouverneurs ou nombre de maires des grandes cités. Donc on a ici une différenciation à faire. Le Mexique aussi également est un État fédéral, mais la différenciation entre les gouverneurs et la présidence de la République est beaucoup moins forte. Par ailleurs, la situation économique du Brésil, malgré tout, est meilleure, si je puis dire, de celle du Mexique, qui lui était déjà entré en récession un an avant l'apparition de la pandémie. Une légère récession, une récession, mais surtout un appareil sanitaire, un appareil de soins, de lits, nombre de lits, etc., bien inférieur à celui du Brésil et de l'Argentine.
Alors justement, Christophe Ventura, le président brésilien Jair Bolsonaro est célèbre pour sa gestion catastrophique de la crise sanitaire au Brésil, on l'a vu. Son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, était moins perçu comme un concurrent acharné du président brésilien en matière de gestion de la pandémie.
Oui, mais c'est vrai, il y a un point commun peut-être entre ces deux présidents, ces deux pays face à la crise sanitaire, c'est que ils ont beaucoup tardé à prendre des mesures et à faire des choix stratégiques face à la propagation du virus, aussi parce que ces pays sont confrontés à des disons paramètres sociaux qui sont très complexes, puisque on est dans des pays où la pauvreté est très importante, où l'informalité dans le travail, c'est-à-dire le fait que les gens, la plupart des gens qui travaillent en fait au noir, hein, comme on dit familièrement, sans contrat de travail, et que donc le fait de devoir confiner les populations, et ces populations en particulier, nécessite des contreparties d'amortissements sociaux pour que ces personnes ne se retrouvent pas très rapidement sans revenus s'ils étaient confinés. Et c'est ça qui a aussi, si vous voulez, expliqué une partie du caractère tardif de leur réaction par rapport à cela. Et je crois que López Obrador au Mexique soviétique a longtemps voulu tenir les deux bouts, disons d'un côté laisser l'activité économique finalement continuer, en particulier pour les gens qui travaillent en secteur informel, petits vendeurs de rue, etc., en se disant qu'on on allait comme ça contenir le plus longtemps possible la maladie, sauf que tout ça a explosé entre leurs mains, que ce soit celle de Bolsonaro avec toutes les conséquences politiques qu'on voit aujourd'hui, et puis la crise au sein de son alliance de pouvoir avec les militaires en particulier aujourd'hui, ou López Obrador qui doit admettre aujourd'hui un échec de sa gestion et peut-être un nombre de morts qui est 60% supérieur à ce qu'annonçaient jusqu'à présent ses autorités.
Alors on reviendra bien sûr un peu plus loin dans l'émission sur les risques politiques. Hein. On a commencé à le voir au Brésil. Le Brésil, Pierre Salama, qui a adopté un plan de relance massif avec un volet social assez consistant. En revanche, le président mexicain, López Obrador, pourtant réputé de gauche et soucieux du sort des pauvres, reste lui très conservateur sur la dépense publique. Le plan de soutien du Mexique est l'un des plus faibles du monde. Pourtant, le Mexique connaît l'une des récessions les plus importantes d'Amérique latine avec l'Argentine. On en parlera. Près de 10 millions de Mexicains vont retomber sous le seuil de pauvreté. Pour le Mexique, la pandémie intervient dans un contexte où le Mexique était déjà entré en récession en 2019. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, avec plusieurs années de croissance anémique. Vous estimez que la pandémie n'a pas provoqué la crise économique, mais l'a précipité. Il y avait des pays plus concernés par la crise déjà ouverte, Pierre Salama?
Oui, l'Argentine, par exemple, était déjà depuis trois ans avant l'apparition de la pandémie, en crise économique, donc était déjà profondément affaiblie. Il y a eu un changement de présidence avec l'arrivée de Fernandez, et qui a vu ses moyens limités, si je puis dire, par l'état de crise économique et surtout les négociations sur la dette externe qui avaient enflé sous la présidence antérieure de Macri, des négociations très difficiles à mener. Donc oui, ce ne sont pas exactement les mêmes situations. Ceci dit, il est intéressant de voir que l'Argentine a eu son PIB baissé de 9,9%, c'est énorme, et c'est pareil au Mexique. Au Brésil, par contre, ça a été de 4,1, ça a été beaucoup moins, grâce précisément à ce plan de soutien qu'on n'observe pas au Mexique. Sauf que ce n'est pas à l'origine Bolsonaro qui a décidé, disons, ce qu'on appelle l'auxilio. L'auxilio, c'est, disons, en gros, notre chômage partiel. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin, c'est la même idée. C'est pas lui qui l'a décidé, il l'a suivi. C'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a vraiment pas eu ça au Mexique. Au Mexique, on en était encore resté aux grands équilibres. Il fallait surtout pas que la dette augmente. Il fallait surtout pas que les déficits augmentent, etc. C'est assez étonnant. Et après, on verra les conséquences politiques. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que malgré tout, AMLO, c'est-à-dire López Obrador, conserve quand même un socle de popularité assez important aujourd'hui, malgré tous ces échecs-là.
Ce qui n'est pas forcément le cas, quoique, de Jair Bolsonaro.
Pour Bolsonaro, c'est, faut pas faire, disons, de l'événement pile. Bolsonaro sa popularité avait beaucoup monté à la fin des années 2000, précisément à cause de cette politique d'aide directe aux personnes. Aujourd'hui, elle a chuté quand s'est agi de renégocier cette aide et d'en faire une aide beaucoup plus faible. Ça a beaucoup chuté. Et puis, c'est ajouté dont on parlait tout à l'heure, à savoir la crise au niveau des appareils militaires.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, Christophe Ventura, l'impact de la pandémie, on va revenir après ça sur les questions purement économiques. Il est évident qu'il y a eu pas mal d'erreurs de certains gouvernements qui, au départ, n'ont pas mesuré le danger. Le président mexicain suggérait une amulette comme remède à la Covid-19, et alors que le président brésilien, lui, évoquait une grippette.
Oui, je crois que ce qui frappe quand on s'intéresse à l'impact de la crise sanitaire en Amérique latine, c'est plusieurs choses, et il en va de l'économie comme du reste. Cette crise n'est au départ de rien dans la situation éto-américaine, mais par contre, elle révèle, exacerbe tout ce qui était déjà en place, et les crises sont multiples, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont aussi géopolitiques. Ce qui frappe en Amérique latine, faut peut-être rappeler à nos auditeurs que aujourd'hui, c'est évidemment le foyer central de l'épidémie dans le monde. C'est 24 millions officiellement de personnes personnes qui sont contaminées par le virus. C'est plus de 760 000 morts à l'heure où on se parle en Amérique latine, c'est-à-dire pour une population latino-américaine qui représente un peu plus de 8% de la population mondiale, bah vous avez quand même un quart des morts, disons, du virus qui se trouve dans cette région-là. Donc ça montre l'ampleur des dégâts en Amérique latine. Ce qui frappe aussi, et ce qu'on s'est dit avant le montre un peu, ce qui frappe, c'est l'extrême hétérogénéité de la gestion de cette crise en Amérique latine. Il n'y a quasiment aucune coordination régionale minimale entre les pays latino-américains. Les stratégies sont complètement différenciées d'un pays à un autre, que ce soit celle dont on parle là de Bolsonaro ou de López Obrador au Mexique, mais celle du Chili n'est pas du tout celle de l'Uruguay, qui est encore moins celle de Cuba ou celle du Venezuela. Le virus montre là aussi la fragilité et le recul en réalité de l'intégration régionale latino-américaine, de la coordination entre ces pays-là, parce qu'ils sont divisés politiquement, fracturés géopolitiquement, et chacun est dans son couloir en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut vraiment souligner. Donc chacun y va de sa stratégie personnelle, et ça, c'est un des facteurs aussi qui explique l'impact dramatique de la pandémie dans la région.
Alors, pour rebondir, Pierre Salama, sur la fragilité de l'intégration latino-américaine, elle est surprenante, cette fragilité, parce que on a connu des années, les années 1990 et celles qui ont suivi, avec de nombreuses initiatives pour favoriser l'intégration régionale. On a eu le Mercosur, la communauté andine, l'UNASUR, l'Alliance du Pacifique, qui n'ont malgré tout pas empêché les échanges intra-régionaux de plafonner à un niveau comparable à celui de l'Afrique, soit un peu plus de 15%. C'est une grande surprise.
Non, moi, ce qui me surprend, c'est que le Mercosur, par exemple, malgré toutes les crises, et Dieu sait s'il y en a eu, différentes époques d'hyperinflation, par exemple, en Argentine, lorsqu'il n'y en avait déjà plus au Brésil, etc., que malgré tout, alors qu'on a lancé sa mort, malgré tout, ça existe encore. C'est ça qui me surprend le plus. Ce sont les deux principales puissances, c'est le Brésil et l'Argentine derrière. Malgré tout, les relations continuent à exister. Et Dieu sait si c'était pas facile à faire avec un type comme Bolsonaro, par exemple. Donc, c'est pas des coquilles complètement vides. Ceci dit, c'est vrai, et Christophe a tout à fait raison de souligner le fait que, effectivement, il n'y a aucune coordination pour lutter contre la pandémie. Chacun y va tout seul, y compris dans ses relations avec la Chine, y compris dans ses relations avec Moscou, pour les vaccins. Ça, c'est quand même assez surprenant. Bon, c'est triste, hein, mais c'est pas ça qui explique, je crois, le nombre de morts. Ce qui explique le nombre de morts, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années et des années et des années, à savoir, comment dire, une économie excluante, c'est-à-dire en défaveur des pauvres. Choix de France, c'était pendant des années et des années. Le fait qu'on ait consacré très peu d'argent pour l'appareil sanitaire, plus en Argentine et au Brésil qu'au Mexique, par exemple. Mais ça se paye aujourd'hui, ça se paye. Et quand je dis plus au Brésil ou en Argentine, c'est beaucoup moins en pourcentage du PIB que, par exemple, en Europe. Donc là, je crois qu'on paye tout ça. On paye tout ça.
Alors, ces deux éléments que vous venez de souligner, avec économie excluante, peu d'argent pour l'appareil sanitaire, ça fait partie de ce que vous évoquez dans votre livre et que vous appelez les 8 plaies de l'Amérique latine. Je les énumère très rapidement et je vais vous demander de réagir, qu'ils soient inégalité très importante de patrimoine et de revenus, informalité des emplois et un taux de pauvreté conséquent, une reprimarisation de l'économie, ce sera intéressant d'y revenir, une détérioration de l'environnement importante, une ouverture financière plus importante que l'ouverture commerciale, une désindustrialisation précoce, une tendance à la stagnation économique, un niveau de violence extrêmement important, surtout au Mexique, au Brésil, au Salvador, au Honduras et au Guatemala, on est là dans l'Amérique centrale, sauf pour le Brésil, et puis peut-être aussi un degré de corruption qui n'est pas mentionné par vous, Pierre Salama, c'est moi qui le rajoute, assez important, Christophe Ventura.
Oui, bah c'est vrai que c'est un constat assez implacable que nous propose l'ouvrage de Pierre Salama, qui est tout à fait juste en tout point. Évidemment, c'est tout ça combiné, donc ça fait quand même une sorte de tempête parfaite, si je puis dire, pour des sociétés qui sont confrontées à un choc global du type de cette crise sanitaire ou avant ça, quand c'était la crise financière de 2008, qui a eu aussi des effets absolument désastreux sur tous les pays latino-américains, qui d'ailleurs ont emmené les pays latino-américains à être dans cette position de fragilité et de faiblesse lorsqu'est arrivé le coronavirus une dizaine d'années plus tard. Donc c'est vrai que c'est tout ça. Les sociétés latino-américaines, de toute façon, structurellement, et ça c'est pas nouveau, c'est, j'ai envie de dire, quasiment depuis la rencontre de la région avec l'Europe, si je puis dire, avec Colomb, et ensuite, c'est toute l'histoire latino-américaine de sociétés qui sont fragiles par leur dépendance et leur caractère subalterne dans l'ordre international. Ce sont des sociétés qui sont dépendantes en réalité des pays centraux de l'économie mondiale pour leur économie, puisqu'elle leur a importe des matières premières à faible valeur ajoutée. Tout ça crée une volatilité permanente dès qu'il y a une crise de l'économie internationale. Ça se répercute immédiatement dans ces pays-là par une chute énorme et brutale et pas compensée par un appareil de production nationale minimalement, disons, autonome. Et donc, ça crée des chutes de ressources énormes pour des États qui sont faibles, qui sont généralement fragiles, parfois même faillis. Je pense au Mexique, par exemple, qui est quasiment dans cette situation-là. Contrairement souvent à l'image qu'on a d'un pays tout à fait stable, etc., c'est pas du tout le cas. Et donc, qui sont pas compensés par des systèmes fiscaux qui permettent une pérennité des financements publics, etc. Et donc, c'est là que tout s'enchaîne. Des pays qui ont été tellement dépendants, même laboratoires des politiques du consensus de Washington, du Fonds international, etc. D'ailleurs, vous voyez, tout ça est durable, puisque à l'heure où on se parle, de nouveau, l'Amérique latine, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL, qui vient de le rappeler il y a quelques jours à peine, l'Amérique latine est de nouveau la région du monde en développement la plus endettée, c'est-à-dire la plus endettée face aux organismes financiers internationaux, face aux marchés financiers, parce qu'ils sont dépendant de toute l'économie internationale donc et du système financier international. Donc dès qu'il y a des crises, c'est la catastrophe immédiatement. Et le fait d'être dans des économies qui sont largement basées sur les exportations de matières premières et de ressources naturelles, bien sûr, aggrave ce sort des sociétés latino-américaines. Donc c'est tout ça qu'il faudrait revoir, mais évidemment, ça se fait pas par décret. De toute façon, le cœur du sujet est là pour les sociétés latino-américaines, pour sortir de cette dépendance, de cette situation de subalternité par rapport à l'ordre international. Et c'est ça qu'il faut construire, et ça passe par bien plus d'intégration régionale, la création de marchés intérieurs communs plus aboutis, etc. Donc la liste serait longue, mais c'est de toute façon la seule voie possible pour que les Latino-Américains puissent sortir finalement de la situation dans laquelle ils sont, et que chaque crise globale révèle de manière toujours plus tragique.
Alors Pierre Salama, la question de l'endettement très important, le plus important au monde de l'Amérique latine, qu'évoquait à l'instant Christophe Ventura, pour rajouter un peu à ce panorama qui n'est pas forcément très 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 reluisant, les chiffres sont là. Bon, on a évoqué la précocité de la désindustrialisation en Amérique latine liée au faible taux d'investissement et à un effort en termes de recherche largement insuffisant. Les chiffres sont tout de même assez incroyables. Entre 0,5 et 1,1% du produit intérieur brut selon les pays consacrés à la recherche. Alors qu'en France, où on estime cette recherche déjà faible, le chiffre est de 2,4%. Contre, pour l'Asie, en particulier la Corée du Sud, 4,5%. À tout cela s'ajoute, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, là aussi, la révolution numérique en Amérique latine. Vous le dites, Pierre Salama, l'Amérique latine passe à côté de la révolution industrielle en cours. Autant dire que les perspectives ne sont pas très reluisantes. 2 minutes pour terminer cette première partie d'émission.
Oui, très vite. C'est la nouvelle dépendance. C'est la dépendance qui arrive demain. C'est-à-dire que ce sont des pays qui consomment les nouvelles technologies, mais ne les produisent pas. Donc, ils ont tout le malheur pour eux pour le futur. Je veux dire par là, ils vont connaître davantage de chômage, davantage d'informalité et une bipolarisation de leurs revenus encore plus forte. Les nouvelles révolutions technologiques dans les pays avancés ont au moins un avantage, entre guillemets, dans la douleur, certes, c'est de produire des emplois pour ceux qui produisent les nouvelles technologies et pas seulement pour ceux qui les consomment. Donc, par conséquent, ça compense peut-être ceux qui consomment. Là, on ne va que consommer. Donc, on va être complètement dépendant. C'est la nouvelle dépendance technologique qui apparaît aujourd'hui avec force dans les pays latino-américains. Et ça, je crois que c'est très grave. Depuis l'arrivée de la pandémie, et donc tout ça s'accentue.
Alors, dépendance technologique, et puis l'écart avec l'Asie qui se creuse de façon vertigineuse.
Si vous prenez l'exemple, je ne parle même pas de la Chine, mais de Taïwan, de la Corée du Sud, etc. C'est Samsung, par exemple, aujourd'hui en Corée du Sud, c'est un monstre. Et il y a 20 ans, 30 ans, on ne pouvait pas imaginer que Samsung puisse exister dans les nouvelles technologies, les technologies de pointe. Aujourd'hui, on n'a pas ça en Amérique latine. On a une spécialisation vers le bas. Quand on produit encore des produits industriels, c'est vers le bas et de plus en plus vers le bas. Donc, on va être continuellement dépendant de tous ces nouveaux produits industriels. Et ça, je crois qu'il y a une responsabilité très, très forte de la part des gouvernants, y compris de gauche, comme par exemple Lula en son temps, qui a préféré importer, puisqu'il avait l'argent des matières premières, plutôt que de faire les efforts qu'il fallait peut-être, et d'imposer surtout, et là Christophe avait fait une référence là-dessus, une réforme fiscale qui au moins s'approche de ce qu'on connaît au niveau de la fiscalité dans les pays européens. On a des fiscalités complètement régressives en Amérique latine, et ça je crois que c'est extrêmement grave. Et on peut peut-être espérer, ça s'est passé dans les années 30-35, qu'avec une grande crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui en Amérique latine, ce soit l'occasion de transformation au niveau politiques et donc par conséquent des réformes structurelles puissent être demain prises. Dans la douleur certainement, mais elles sont encore plus d'actualité, si je puis dire, qu'elles ne l'étaient il y a une dizaine d'années.
On est en droit de rester pessimiste. Pierre Salama, on vous retrouve avec Christophe Ventura après le journal. À tout de suite.
Ce dimanche sur RFI, idée géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Amérique latine. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Pierre Salama, latino-américaniste, professeur émérite des universités, chercheur au CNRS, auteur de Contagion virale, contagion économique, risque politique en Amérique latine, qui est paru aux éditions du Croquant. On a fait un tour d'horizon dans la première partie de l'émission sur la situation sanitaire et la situation économique qui prévaut aujourd'hui en Amérique latine. On va parler maintenant des conséquences possibles en termes politiques de tout ce qui se passe. On a vu le Brésil bouger cette semaine avec le président Jair Bolsonaro procéder à une réorganisation de son gouvernement qui a généré directement ou indirectement la démission de 4 militaires, 6 militaires me dit même Pierre Salama, pardon. Christophe Ventura, un commentaire.
Bah oui, c'est vrai qu'on vient de vivre une semaine un peu sous la forme d'un nouveau coup de tonnerre dans la vie politique brésilienne, où il y en a beaucoup depuis quelques années. N'oublions pas qu'on vit dans un pays qui connaît une crise démocratique sans fin depuis 2016 et la destitution de Dilma Rousseff. Hein, l'élection et le gouvernement de Jair Bolsonaro n'étant finalement qu'un nouveau chapitre du développement de cette crise politique à base de conflits d'intérêts entre les institutions brésiliennes, de campagnes judiciaires contre donc Lula et Dilma Rousseff, surtout Lula qui finalement aujourd'hui lui a permis de retrouver ses droits politiques et de désavouer le juge Sergio Moro qui était le héros jusque-là de la lutte anticorruption et de l'affaire de pot de vin lavage à taux. Enfin, on est dans un pays qui est en crise vraiment à tout point de vue. Il y a une vraie crise de régime dans ce pays-là et de la démocratie, du cadre démocratique. Et ce qui est en train de se passer sous les coups de boutoir de la crise sanitaire accélère et approfondit sous des nouvelles formes cette crise. Maintenant, elle touche le bolsonarisme en son cœur. Ce qui vient de se passer cette semaine, c'est en fait d'abord une grande erreur stratégique de Jair Bolsonaro et puis un mauvais calcul. Il a dû céder à ses nouveaux alliés du ce qu'on appelle le Centrão, qui est le gros centre, comme on dit au Brésil, d'une quinzaine de partis politiques qui font la pluie et le beau temps au Congrès dans la vie politique brésilienne depuis toujours, qui sont des partis qu'on appelle la droite physiologique au Brésil, qui sont des partis opportunistes, qui n'ont pas réellement d'idéologie autre que celle de bénéficier finalement des positions, des postes et des subventions que permet la vie politique, mais qui sont toujours les alliés des grands partis qui gouvernent. Ça a été le cas avant Bolsonaro, et désormais Bolsonaro, dans la crise sanitaire qui l'a éloigné l'année dernière de ses bases initiales, c'est-à-dire de la droite et du centre-droit brésilien qui s'est éloigné de lui, il a été en conflit, on a vu avec Monsieur Doria à Sao Paulo, avec beaucoup de cadors de la droite traditionnelle qui voudraient maintenant revenir au pouvoir en se passant de lui. Bref, il a rompu avec eux, mais il s'est rapproché de ce Centrão, qui a quand même cumulé 30% des voix aux élections municipales fin 2020 au Brésil, et qui représente 2/3 des sièges au Congrès. Il faut avoir ça en tête pour comprendre le film. Et donc, Bolsonaro a finalement une alliance assez forte avec ce Centrão qui dirige le Congrès, qui le protège donc des mesures d'impeachment, de destitution que la droite voulait lancer contre lui, avec le Parti des Travailleurs aussi d'ailleurs. Bref, il est protégé par cette alliance, mais cette alliance a un prix. Le prix, c'est que le Centrão a exigé et obtenu de Bolsonaro, l'affaiblissant, de démettre, disons, son ministre le plus emblématique de son aile, disons, d'extrême droite, anti-chinoise, pro-Trump, corona-sceptique, qui est monsieur Ernesto Araújo, le ministre des Affaires étrangères. Il a dû démissionner cette personne qui est très proche de lui et de son mentor Olavo de Carvalho, philosophe et astrologue de condition. Et donc, en quelque sorte, le Centrão a exigé et obtenu de Bolsonaro qu'il coupe les liens avec sa partie qui est la plus proche de lui, qui est en fait l'extrême droite, disons, trumpisto, anti-chinoise, etc. Et ça, Bolsonaro a dû le concéder. Et après, il a donc fait ce choix finalement de sanctionner l'armée en demandant la démission du ministre de la Défense parce qu'il trouvait que ce dernier ministre ne le soutenait pas assez, qu'il était trop critique de la gestion pandémique du gouvernement, qu'il avait fait des déclarations qui contrevenaient au projet autoritaire de Bolsonaro en disant que l'armée devait rester dans la légalité, était au service du peuple et pas d'un projet qui sortirait des clous démocratiques. Mais en faisant ça, il a provoqué l'ire de l'état-major, et là, bon, c'est la crise qu'on a vue cette semaine où effectivement on n'a jamais jamais vu ça au Brésil. Les trois chefs de corps d'armée ont démissionné collectivement. Et Monsieur Bolsonaro se retrouve aujourd'hui avec un nouveau problème qui va être donc sa relation avec des militaires qui en fait tous sont à la fois mouillés avec lui jusqu'au cou parce que le gouvernement brésilien est un gouvernement militaire, la moitié des ministres en viennent, plus de 6000 cadres de la haute administration brésilienne sont des militaires de réserve ou d'active. Donc ils sont mouillés jusqu'au cou avec Bolsonaro et en même temps ils ne veulent pas assumer le chaos dans lequel le pays est aujourd'hui avec la crise sanitaire, tout ça sur fond de grande crise économique et aussi d'isolement international de Bolsonaro qui a perdu son allié Trump et qui aujourd'hui se retrouve totalement isolé. Et donc les militaires, comme d'autres secteurs des élites économiques et de la droite brésilienne, ne veulent pas finalement assumer ce chaos. Et il y a une espèce de grenade dégoupillée qui est à la tête de l'État, qui s'appelle Jair Bolsonaro, et dont personne ne sait bien ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un peu trop tôt pour le dire. Plusieurs scénarios sont sur la table. Peut-être Bolsonaro ne pourra-t-il pas terminer son mandat si le centre, le gros centrao, le lâche à son tour, parce qu'il pourrait y avoir dans ce cas-là des mesures de destitution. Et peut-être que ça arrangerait certains militaires, parce que si c'était le cas aujourd'hui, si Monsieur Bolsonaro entre maintenant et 2022 était destitué, qui prendrait la tête du pays? Eh bien, c'est le vice-président, le général Morao, qui fait partie de, disons, des pragmatiques de l'armée et qui, en quelque sorte, pourrait terminer le mandat directement avec les militaires au pouvoir. C'était un scénario possible, ça ne veut pas dire que c'est celui qui va arriver. L'autre scénario, c'est que Bolsonaro arrive finalement à rester au pouvoir et à avoir cette alliance avec le Centrao jusqu'à l'élection présidentielle, et que s'il arrive finalement à dépasser cette contradiction qu'il, disons, l'étrie entre d'une partie des élites économiques qui lui demandent de la modération financière et puis la population qui demande à être protégée et qui ne protège plus puisqu'il ne donne plus l'aide exceptionnelle qu'il leur a donnée jusqu'à la fin 2020 qui lui avait valu un sursaut de popularité, s'il arrive à sortir cette contradiction-là, peut-être qu'il aura un avenir politique et qui sera de nouveau en mesure de se présenter en bonne position aux élections, peut-être face à Lula, nous verrons, on n'en est pas là, mais aujourd'hui on est vraiment dans un scénario qui est caractéristique des crises de rupture dans des régimes politiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des oscillations violentes qui nous font passer d'un scénario à un autre. Il faut accepter cette dose d'incertitude qui est liée à une instabilité qui n'est pas conjoncturelle mais qui est structurelle dans la vie politique brésilienne.
En tout cas, Pierre Salama, on peut imaginez que beaucoup de chefs d'État latino-américains observent ce qui se passe au Brésil, conscients, et c'est le chapitre qu'on a ouvert avec Christophe Ventura sur les risques politiques de cette crise sanitaire. Alors il a prononcé le mot de rupture, c'est vrai que c'est une rupture. Quelle analyse peut-on faire de ce nouveau positionnement de l'armée dont on peut rappeler à nos auditeurs que c'est une institution qui a été au pouvoir au siècle dernier au Brésil et que donc c'est un élément très touchy, comme on peut dire, au Brésil et dans d'autres pays latino-américains.
Oui, d'abord, le premier point, c'est qu'en 64-67, les deux coups d'État au Brésil, 67 étant le coup d'État dans le coup d'État, avec donc la venue de l'armée au pouvoir, c'était une armée quand même assez différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est une distinction importante. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que disait Christophe. Je pense qu'effectivement, nous sommes en présence d'une rupture. Mais je dis, il faut faire attention au catastrophisme. Vous prenez la popularité de Bolsonaro il y a à peine 6 mois, même pas, et il était en passe de gagner s'il y avait de nouvelles élections. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait précisément de la politique contraint et forcé qu'il a dû mener d'aide aux plus pauvres. Et ça, je crois que c'est très, très important de bien avoir cela en tête. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu l'appui d'une grande partie des classes moyennes qu'il avait auparavant. Ce qu'il y a aussi également, c'est que du patronat, ils se sont beaucoup méfiés de l'affaire de Petrobras. Il a licencié le directeur général, si vous voulez, pour le remplacer par un ami à lui. Donc ça, c'est pas acceptable pour une grande partie de la bourgeoisie. Mais s'il a perdu des points importants, il conserve quand même le poids de l'Église évangélique. Ce poids, il est déterminant en Amérique latine, beaucoup plus par exemple que dans le cas mexicain. Donc je crois que le jeu n'est pas encore fait. Par ailleurs, de l'autre côté, si je puis dire, l'événement central a été effectivement le fait que Lula puisse revenir, si je puis dire, dans le jeu politique. Mais le côté négatif, c'est que le PT n'a jamais mené, il a toujours défendu Lula, ce qui était normal, mais il n'a jamais mené une autocritique de ce que avait fait Dilma Rousseff ou ce que avait fait Lula lui-même. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de Bonaparte qui réapparaît. C'est une sorte de Bonaparte et il peut faire quasiment ce qu'il veut. Et ce dont on se méfie, et de ce dont une partie de la gauche se méfie à l'heure actuelle au Brésil, c'est qu'il y ait des accords avec le Centrão dont a parlé tout à l'heure Christophe. C'est-à-dire qu'on est un nouveau gouvernement qui sera certainement bien meilleur que celui de Bolsonaro, mais sera tellement rose pâle que c'est le pâle qui dépassera le rose, si je puis dire. Et ça, c'est un peu ce qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire le Brésil, sa grande faiblesse, c'est qu'elle n'a pas discuté politique, ou très très peu politique. C'est une des responsabilités, me semble-t-il, de la gauche, de ne pas avoir pris à bras le corps ce qui se passe au Brésil et comment imaginer une autre politique pour sortir de l'état de crise dans lequel ils sont. Maintenant, ceci dit encore, il faut faire très attention à une chose. Dans tous les pays latino-américains, à ce niveau-là, une crise économique, une crise sociale, une crise de santé ne se traduit pas nécessairement par une crise politique, par un nouveau gouvernement politique. Il faut se méfier de ce genre de choses parce que ça, c'est le catastrophisme. Et après, on dit des âneries. Je m'excuse, Christophe, on peut dire des âneries. Si vous prenez, par exemple, le cas du Mexique, il est très intéressant. Parce que le cas du Mexique, où vous avez un échec total, je rappelle quand même que la croissance a baissé de 10 points au Mexique. Elle a baissé de 4,1 points, c'est-à-dire moins de la moitié de celle de la France l'année dernière. Eh bien, malgré cela, au Mexique, AMLO conserve un appui populaire relativement important, bien que les églises évangéliques soient beaucoup moins importantes qu'au Brésil. Donc, je crois qu'il faut faire, à mon avis, un petit peu attention à ce niveau-là. Il faut se méfier, je pense, d'un certain déterminisme lié au catastrophisme. Je ne suis pas certain que les lendemains en Amérique latine soient si roses que ça, c'est ça que je veux dire.
Un commentaire, Christophe Ventura, par rapport à ce que vient de dire Pierre Salama. Après ça, peut-être un petit développement sur la question des églises évangéliques. Vous oui. l'avez dit, hein, l'influence des évangéliques sur l'ensemble de la politique sociale et culturelle de Bolsonaro, elle est importante. La question est aujourd'hui peut-être de savoir si les églises évangéliques vont être ou pas renforcées par la pandémie. Un commentaire, Christophe Ventura.
Oui, je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Pierre. Je ne sais pas du coup à quelle ânerie il faisait référence. Enfin, j'ai pas compris ce point-là, mais peut-être il nous le dira tout à l'heure. Alors sur Bolsonaro, évidemment, on devrait y passer des heures. Moi, je considère que le bolsonarisme, c'est une sorte de ce que j'appelle un vortex conservateur au Brésil. C'est-à-dire, c'est une forme politique qui a aggloméré tous les courants, disons, conservateurs du pays, sur le plan politique, sur le plan social. C'est l'extrême droite brésilienne, nostalgique de la dictature des années 60 à 80, c'est une partie des militaires, on en a parlé, c'est les églises évangéliques qui largement sont avec lui, et ça a été une partie de la droite traditionnelle et du centre-droit brésilien qui se sont ralliés à Bolsonaro en 2018, faute de mieux, parce que leur candidat avait été liquidé au premier tour d'élection présidentielle, et qu'ils ont choisi Bolsonaro plutôt que de laisser revenir au pouvoir le Parti des Travailleurs, dont le candidat était Fernando Haddad. Donc c'était ça le premier bolsonarisme, en quelque sorte. Effectivement, il a perdu en cours de route une grande partie des classes moyennes diplômées urbaines, en particulier du fait de la gestion pandémique et de ses positions sur le confinement, en particulier. Il les a perdus, il a perdu le centre-droit et la droite, il a rompu avec Sergio Moro, on s'en souvient, etc. Et puis, il s'est recentré sur une partie de la population plus de l'intérieur, plus pauvre, plus rurale, avec justement cette politique d'aide et qui a permis, grâce à cette allocation exceptionnelle, à Bolsonaro d'avoir cette popularité dont on a parlé jusqu'à la fin de l'année, là, qui l'emmenait à 40% de popularité dans le pays, ce qui est quand même assez énorme. Le noyau central du bolsonarisme, à mon sens, on est à peu près sur un 20, 25, peut-être 30%, un tiers de la population brésilienne qui, de toute façon, votera toujours. Et Bolsonaro dirige pour eux. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Parce que ce noyau sera toujours mobilisé dans les échéances à venir pour lui, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Donc, le bolsonarisme en est là et le reste, il y a des changements d'alliance qui sont liés aux ruptures dont on a évoqué, sur lesquelles je n'ai pas à revenir. Et la gestion sanitaire, c'est ce qui l'amène aujourd'hui à avoir ces difficultés avec les militaires, etc. etc. et d'être plus dépendant du grand centre dont on parlait. Alors maintenant, je ne crois pas qu'il faille justement ni être dans le catastrophisme, ni dans quelque chose où on pense que ça va aller mieux. En fait, on n'en sait strictement rien, parce qu'encore une fois, il faut prendre la mesure de la crise démocratique qui existe dans ce pays. Ce qui caractérise ce pays, la situation, c'est que tout peut arriver, parce que précisément, c'est une démocratie dysfonctionnelle. Donc tout peut arriver, on peut avoir du bonapartisme, on peut avoir un retour d'un gouvernement populaire, qui ne sera pas de toute façon en mesure, à mon avis, de développer un programme radical de transformation de la société brésilienne, parce que elle est tellement polarisée, il y a des intérêts tellement lourds, et puis des courants conservateurs tellement forts, que le rapport de force ne permettrait, je crois pas, au Brésil aujourd'hui, même d'avoir une politique aussi avancée que celle que Lula a pu avoir au début des années 2000. Donc on est de toute façon là-dedans. Au Mexique, la popularité de López Obrador, elle a ses explications. C'est quelqu'un qui, par rapport à tous les gouvernements précédents, si vous voulez, incarne une sorte de probité et puis un vent frais dans le comportement, la pratique politique, et puis le fait qu'il ait parfaitement identifié le mal du Mexique, qui était la corruption endémique, qui était systémique, et qui était que l'État était corrompu lui-même au Brésil, au Mexique, et que c'était ça qui devait changer pour opérer une transformation sociale durable vers plus d'égalité pour la population et de justice. Le problème, c'est que là aussi, comme souvent les gouvernants, il a eu, si vous voulez, un vent très fort d'une population dans un souffle démocratique qui a voulu changer le système politique sclérosé du Mexique et en finir avec les violences endémiques qui s'y déroulent. Le problème, c'est que comme souvent, les dirigeants, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont confrontés à des événements qui n'étaient pas anticipés. Là, la crise économique, ici, la crise sanitaire, qui fait que sur de larges aspects du programme initial de López Obrador, qui n'a que 6 ans pour opérer sa transformation du Mexique, eh bien aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et donc, il a encore une popularité qui est très forte parce qu'il a des bonnes positions et qu'il répond à des attentes et des aspirations de la société mexicaine. Mais aujourd'hui, la difficulté pour López Obrador, c'est dans quelle mesure il va être capable, en réalité, d'atteindre les objectifs qu'il s'est donné. Et aujourd'hui, son mandat a largement été finalement parasité, si je puis dire, par la crise sanitaire, etc. Et donc, c'est ça la question qui est posée à López Obrador. Et on aura un élément de réponse au mois de juin, puisqu'il y aura des élections législatives un peu l'équivalent des élections de mi-mandat aux États-Unis, où on va avoir un renouvellement du Congrès partiel qui nous donnera un petit peu la mesure finalement de la confiance dont il a toujours la possession 2 ans, enfin quasiment un mi-mandat après son élection. Donc on aura une petite indication là-dessus, mais il est clair que López Obrador continue d'incarner des aspirations de la société mexicaine à des changements et que dans l'offre politique mexicaine, personne aujourd'hui n'a cette capacité-là autre que lui.
Alors je voulais qu'on aborde la question des risques par rapport à la Chine, mais je ne peux pas terminer cette émission, Pierre Salama, sans revenir sur le qualificatif d'ânerie, là, sur l'analyse politique de la situation au Brésil. C'est peut-être finalement à moi qui était davantage de diriger plutôt qu'à Christophe Ventura quand on évoquait la question de rupture et les risques à propos de ce nouveau positionnement de l'armée. Je ne sais pas si vous voulez répondre à Christophe Ventura ou on conclut sur la question de la Chine.
Ce qu'on sait pour ce qui concerne l'armée, c'est qu'en fait, il faut différencier les petits gradés et les grands gradés, si je puis dire. Là, il est en rupture avec les grands gradés. Mais il avait une base assez importante dans l'armée vis-à-vis des petits gradés. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où l'on est.
Enfin, moi, une affaire à suivre, en tout cas.
C'est une affaire à suivre, ouais. Là-dessus, on ne sait pas exactement.
Alors, pour terminer cette émission, les risques de tout ce qu'on a évoqué depuis le début de cette émission par rapport à la relation avec la Chine, rapidement, Pierre Salama.
D'abord, la Chine, c'est pour de nombreux pays, du fait des matières premières, si la reprimarisation dont on a parlé, c'est quand même le premier client pour de nombreux pays, sauf le Mexique, parce qu'il n'a pas de matière première. Sa seule matière première, ce sont les hommes qu'il exporte, entre guillemets, aux États-Unis, qui rapportent ce qu'on appelle les remessas, c'est-à-dire les transferts d'argent. Mais sinon, pour le Brésil, pour le Chili, etc., l'Argentine ne vit en fait que de ses relations avec la Chine. Le Venezuela est très fortement endetté aussi également vis-à-vis de la Chine. Alors donc, on a une pénétration qui date d'avant Trump, si je puis dire, mais qui s'est accentuée avec Trump, une pénétration de la Chine en Amérique latine qui est assez importante et qui est le résultat aussi de la politique d'Obama de laisser tomber l'Amérique latine pour s'orienter plutôt vers l'Asie. Qu'est-ce qu'il va en être demain? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a un début, dans plusieurs pays, un début d'opposition à cette pénétration chinoise. Plus la Chine devient puissante, plus elle montre ses crocs, si je puis dire. Et ça, je crois qu'il y a, à l'heure actuelle, un début de résistance. Donc, ce que cela va donner demain, je ne sais pas très bien, sauf que je suis persuadé que la politique américaine ne va pas se limiter seulement à un retour vers l'Amérique centrale à cause du problème des immigrés, mais elle va tenter de, je le crois du moins, contrer la pénétration souterraine à l'heure actuelle de la Chine. C'est possible. Ça s'est fait déjà vis-à-vis du Mexique, notamment par la négociation du nouveau traité de libre-échange qui exige quand même que des parts importantes soient faites dans le pays et non pas importées de Chine pour pouvoir s'exporter aux États-Unis. Ça peut se faire également demain, sauf que le commerce avec les États-Unis, la plupart des pays latino-américains, en dehors du Mexique et d'Amérique centrale, c'est quand même relativement, c'est beaucoup affaibli ces temps derniers.
En tout cas, des dossiers à suivre. Merci Pierre Salama. Je rappelle que vous êtes donc latino-américaniste et professeur émérite des universités et chercheur au CNRS et auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de Contagion virale, contagion économique, risque politique en Amérique latine, aux éditions du Croquant. Et Christophe Ventura, qui était avec nous par téléphone à cause des restrictions de la pandémie. Christophe Ventura, qui est directeur de recherche à l'IRIS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de l'impact de la pandémie sur la relation américano-chinoise et la place de la Chine sur l'échiquier mondial. À demain.